Les pieds sur terre, Sonia Grönlund.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
À partir d'aujourd'hui, lundi 20 mai, le médecin de Vincent Lambert a décidé de suspendre les traitements de cet homme de 42 ans, maintenu en vie depuis 2008 après un accident de la route. Cette décision fait suite à une bataille juridique qu'on connaît et qui dure depuis 2013. Hier, la mère de Vincent Lambert avait appelé un rassemblement devant l'hôpital de Reims pour s'opposer à cette décision pourtant validée par le Conseil d'État. La question que nous posons aujourd'hui dans Les Pieds sur Terre est proche de cette affaire, mais elle va en un sens un peu plus loin. Pourquoi serait-il moralement acceptable d'arrêter les traitements de Vincent Lambert et difficilement envisageable qu'on procède directement à une injection létale, par exemple, pour abréger ses souffrances ? Pourquoi est-ce moins condamnable dans le cas d'une personne âgée que dans celui d'un enfant, s'il n'y a aucun espoir pour ces deux personnes ? Et si c'était moralement équivalent pour un enfant ou une personne âgée, pourrait-on vraiment dire qu'on tue ou laisse mourir quelqu'un par amour, par devoir ou pour faire des économies ? On se souvient du film de Michael Haneke, justement intitulé « Amour », dans lequel le mari d'un couple de musiciens, devant la maladie paralysante et dégénérative de sa femme, finit par l'étouffer avec un oreiller. Et pour empêcher toute mauvaise conscience à venir, dans un des plus beaux dialogues du film, sa femme lui dit « Tu es un monstre, mais tu es gentil ». Les deux histoires d'aujourd'hui donc sont aux frontières de l'euthanasie, plus loin dans la polémique et dans la douleur, dans les bas-fonds du chagrin et du désespoir. À partir de quand peut-on décider qu'une vie, la sienne ou celle de ceux qu'on aime, ne vaut plus la peine d'être vécue ? Et qui peut juger d'un tel choix ? Un homme peut mettre fin au jour de sa femme au cinéma sans que cela choque. Le film a même remporté la Palme d'Or. Mais si c'était une mère avec son fils handicapé ? Et à quel degré de handicap ou de maladie serait-ce moralement accepté ? Comment ne pas céder alors au validisme dans ce cas, c'est-à-dire aux discriminations exercées à l'égard des personnes handicapées ? On y va donc à présent avec beaucoup de précautions. On vous aura prévenu, ce sont des histoires complexes, ardues, des matières à penser. Elles tombent sous le coup de la prescription pour la justice, mais pas pour la réflexion. De récits de Valérie Borst.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Je m'appelle Bernard Senet, j'ai 70 ans. Je suis installé dans ce village de Velleron, dans le Vaucluse, depuis 42 ans. En fait, j'ai fait des études de médecine. Je m'orientais plutôt vers la neurochirurgie ou la rhumatologie. Et dans les années 70-72, donc à la fin de mes études de médecine, j'ai fait partie du MLAC, qui était le mouvement pour la libération de l'avortement. Donc on faisait des IVG clandestines. On aidait des femmes à pas être obligées d'aller en Angleterre, en Hollande ou en Espagne. Et on le faisait, je pense, sans problème, parce qu'on savait que ce qu'on faisait, nous, c'était médicalement correct. Enfin, on essayait d'être le plus propre, stérile, de pas provoquer d'hémorragie, etc. Et en se disant, de toute façon, il vaut mieux que la fille, elle le fasse avec nous, que dans les mains d'une faiseuse d'ange, et risquer de lui filer des problèmes, enfin, graves. Parallèlement, à la même époque, je travaillais dans des services de neurologie où on avait des patients très handicapés et on décidait, en équipe, jamais tout seul, d'aider un certain nombre de gens à partir. Soit parce qu'ils étaient trop souffrants, soit parce qu'ils le demandaient. On faisait donc des euthanasies. Alors, j'aime pas trop utiliser ce mot comme ça. On va dire plutôt des aides médicales à mourir. Et on utilisait ce qu'on appelle un cocktail lytique, le DLP, qui combinait le dolosal, le fénergan et le largactyle. Donc, ce sont trois médicaments. Vous demandez à tout étudiant en médecine le DLP, il sait exactement ce que c'est. Une manière de permettre aux gens de partir très tranquillement, rapidement. Et ces produits n'existent plus maintenant, mais depuis, en gros, la mise en place de soins palliatifs, on va dire les années 90-95, on utilise d'autres produits, enfin, principalement un médicament qui s'appelle l'hypnovel, Et je crois qu'il faut être clair, aujourd'hui, en 2019, on utilise ce produit pour vraiment faire des euthanasies actives. Et beaucoup de médecins le font et ne peuvent pas le dire, puisque la loi l'interdit. Donc les médecins sont forcément condamnés à mentir. Une fois, je me suis installé dans mon cabinet. Donc pendant les premières années, je n'ai pas été confronté à des maladies particulièrement catastrophiques. Et puis, en 1980, il est arrivé donc cette jeune fille de 12 ans, donc elle s'appelle Valérie, avec un cancer abominable, ce qu'on appelle un sarcome, nous. C'est des cancers très évolutifs, très dangereux, très mauvais. Et elle était en fauteuil roulant, elle était paralysée parce qu'il y avait des métastases partout. Alors elle a tout eu, chirurgie, elle a eu des rayons, elle a eu des chimios. Donc ça a été 2 ans de galère et elle s'est battue vraiment comme un lion. Elle avait une énergie absolument faramineuse. Elle avait un peu du mal à parler, mais elle avait toute sa tête. Et donc au bout de 2 ans, le 3 mars 82, elle a dit « Je fête mes 14 ans avec mes copines. » Je suis toujours ému quand j'en parle. Et elle me dit, après, je m'arrête. Elle avait au moins 2 ou 3 mois avant dit, je sais que je suis foutu, je vois bien que ça s'aggrave. Elle s'est rendue compte que la maladie évoluait tellement qu'elle a dit, moi je pourrais pas me marier, je pourrais pas avoir d'enfant, je pourrais pas vivre comme une femme normale. Et je sens bien que mon corps m'abandonne, enfin me trahit. Il y a un moment, il faudra que je m'arrête, il faudra que tu m'aides à partir. Donc elle savait que j'allais l'aider et que je ne résisterais pas à sa demande, que je ne serais pas contre. Humainement, on ne va pas lâcher quelqu'un avec lequel on s'est battu, qu'on a accompagné et tout ça. On est dans la loi de l'humanité. Mon souci à moi, ça a été de me dire avec quoi je vais faire ça. Oui, bien sûr, tous les médicaments qu'on utilise dans les hôpitaux, tout ça, nous, les généralistes, ils ne nous le donnent pas. En gros, je les ai volés. J'étais médecin de pompier à l'époque. Dans les ambulances de pompiers, il y a des produits que vous pouvez récupérer qui ne sont pas décomptés. C'est-à-dire que personne ne va s'apercevoir que vous avez piqué 3 ou 4 ampoules. Bon, tu sais pas, une ampoule de Valium, ça doit valoir 50 centimes. Oui, non, c'est pas le problème, ce n'est pas un problème financier. Je me suis fait un stock, quoi. Et puis après, il n'y a pas eu de souci. Je veux dire, ça s'est très bien passé. La partie, si je puis dire, technique n'a pas posé de problème. Et l'autre problématique, c'était quel moment on le fait, comment on le fait. On avait discuté avec elle et sa mère, et il fallait que son papa soit là. Il était marin, et il était souvent sur son bateau. Donc on s'était aligné sur ses horaires, hein. Il fallait que ce soit un moment où il soit à terre. Donc on avait calé ça un samedi matin, qui était juste 8 jours après son anniversaire. En fait, ça a eu lieu chez eux, c'était l'hôpital à la maison, avec tout le matériel dont on avait besoin au point de vue médical. Et j'ai dû arriver à 4 ou 5 heures du matin. Le papa, lui, c'était résolument, mais très clairement, il avait dit « je veux pas assister, donc je me mets dans une pièce un peu à côté ». Il y avait une cheminée, je me souviens, il avait allumé la cheminée. Il s'était calé dans un fauteuil. Je le revois très bien comment il était installé. Et la maman était... elle n'a pas paniqué du tout. Et Valérie, elle était extrêmement sereine. Jusqu'au bout, elle était bien. Donc après, ben moi, j'ai injecté le produit. Elle s'est arrêtée de respirer. Elle est partie tout de suite. Enfin, 5 minutes, 10 minutes, je sais pas. Enfin, très, très rapidement. C'est moi qui ai fait le certificat de décès. Donc j'ai évidemment écrit que c'était une mort naturelle, hein. Je n'allais pas écrire que j'avais injecté des produits. Donc c'est un certificat de décès tout à fait classique, évolution terminale d'une maladie grave. Hein. Bon, en sachant qu'effectivement, quand tu aides quelqu'un à mourir, c'est la cour d'assises. Hein, c'est un crime avec préméditation, c'est le plus lourd. Aider quelqu'un à mourir, c'est crime avec préméditation. Un mois après, ou 3 semaines après, à une réunion de formation d'un groupe de médecins auquel j'appartiens, on commençait toujours la réunion par raconter nos derniers trucs, enfin, ce qui nous était arrivé. Et comme l'histoire, je l'avais tout même sur le cœur, je leur raconte ça. Et alors là, ils ont tous réagi en me disant « raconte pas ces trucs-là ». L'ordre des médecins va te tomber sur le dos, tu sais que tu es dans l'illégalité. Mais j'ai réalisé, c'est là que j'ai réalisé en fait. Pour moi, j'avais accompagné quelqu'un qui avait une maladie douloureuse et qui était en fin de vie, et j'avais respecté sa volonté. Mais je n'étais pas du tout dans « j'ai fait un truc illégal ». Et c'est là qu'ils m'ont ouvert les yeux. Et c'est pour ça que c'est l'histoire qui m'a enclenché dans le combat pour l'aide à mourir, c'est l'histoire de cette jeune fille. Je me suis dit, mais c'est comme pour l'avortement. Il faut qu'on fasse quelque chose, il faut qu'on bouge, il faut qu'il y ait une loi. Et donc, dans les mois qu'on suivit, la DMD, l'Association pour le droit à mourir dans la dignité, donc, a été créée. Je me suis mis à militer, enfin, à participer aux activités de la DMD. Alors, ça fait maintenant plus de 30 ans. Et maintenant, depuis les dernières années, de plus en plus, j'ai effectivement accompagné des gens à mourir. Alors, ça vient de toute la France, évidemment. Quand quelqu'un m'appelle en me disant « je suis au bout du rouleau, j'ai telle pathologie », moi, je m'assure toujours de que l'entourage est informé, que les directives anticipées ont été écrites. Ça c'est très important, que ce soit, ça se fasse dans des bonnes conditions. De temps en temps, c'est quelquefois un peu lourd tout de même, faut dire la vérité, parce que ça fait beaucoup de personnes qui sont dans des détresses terribles. Et ils me mettent devant le fait accompli en me disant « vous, puisque vous aidez, aidez-moi ». Je ne suis pas du tout dans la même configuration. Je ne suis pas leur médecin, j'interviens comme un militant à qui on demande de faire quelque chose, comme un espèce de distributeur de mort. Je peux estimer maintenant, entre les gens que j'ai aidés en tant que médecin de famille, des accompagnements, et depuis que je suis très militant, là, ça peut faire peut-être une centaine de personnes. J'ai pas eu d'ennui juridique. J'ai jamais été inquiété. Je me suis retrouvé un jour avec le procureur de Vaucluse et il m'a dit « Vous aimeriez bien que je vous mette en prison ?» Et il pensait à l'euthanasie et au fait que je dise publiquement que j'aidais des gens à partir. Et je lui dis « Oui, je sais bien, ce serait pas mal. D'ailleurs, ça ferait un beau procès. » Et il me dit « Mais c'est justement pour ça que j'ai interdiction de vous attaquer. » En gros, ils veulent surtout pas qu'on médiatise. Parce que chaque fois qu'on médiatise, Chantal Sébir, Vincent Lambert, Bonne Maison, chaque fois que vous avez une médiatisation, toute l'opinion publique ne fait que pousser en disant « Ouf, ils ont bien fait d'aider les gens. Ils étaient en souffrance, ils demandaient à partir et on les a aidés à partir. » Donc en fait, ils n'ont pas intérêt. Et je crois que c'est pour ça que je ne suis pas poursuivi. On ne peut pas empêcher les gens de mourir. Et le fait que les euthanasies sont clandestines, ça met tout le monde très mal à l'aise. Ça met la famille dans une situation de porte-à-faux. Finalement, on laisse les gens craquer au lieu de leur faire des propositions. Ce qui est dégueulasse. Il faut absolument qu'il y ait une loi, quoi.
France Culture, les pieds sur terre. Je suis Anne Ratier, et je vis dans l'Aveyron, j'ai 59 ans. Donc ça commence en 1984, le jour de Toussaint. Je suis prête à accoucher et nous arrivons à la clinique à 17h. Le médecin est là, la sage-femme, le médecin me fait un monitoring, il me dit tout va bien. Bon, c'est le jour de Toussaint, c'est férié, donc il s'en va. Et au fur et à mesure que le temps passe, je me sens de moins en moins bien et je dis à la sage-femme, écoutez, je sens que quelque chose ne va pas. Alors elle me dit, mais écoutez, vous êtes douillette, vous n'y penserez plus tard. Et bon, ça continue, les heures passent. De temps en temps, le médecin téléphone, à peu près toutes les 3 heures. Et je l'entends, la sage-femme, qui dit « Oui, oui, tout va bien ». Et moi, au bout d'un moment, je lui dis « Écoutez, non, ne lui dites pas que tout va bien, ça va pas, la prochaine fois qu'il appelle, dites-lui de venir, etc. » Parce que moi, je déchirais les draps, je n'en pouvais plus. Puis à un moment donné, moi, je sens vraiment que le bébé ne va pas, qu'il ne bouge pas, il ne descend pas. Et puis moi, j'étais vraiment dans un sale état. J'ai dit « Là, on est en train de mourir ». Elle a dit « Mais non !» Bon, voilà. À 8h du matin, le médecin est arrivé. Et là, il a vu que le cœur du bébé ne battait pas. Du coup, ils ont fait une césarienne d'urgence. Et il a dit à mon mari, écoutez, votre fils, il a un tout petit problème, ça n'est pas grave. Est-ce qu'on peut lui donner des soins? Alors, il lui a fait signer un papier, une autorisation de soins. Le SAMU a transporté Frédéric dans un hôpital proche. Moi, je suis toujours à la clinique.
Et c'est après, au bout d'une semaine, que on est allé directement à l'hôpital interdépartemental. Et c'est la première fois que j'ai vu mon fils dans une couveuse, intubé de partout. Il mettait la sonde dans l'estomac direct. Et moi, quand je voyais tous ces tuyaux et ce petit bout, c'était pourtant, pour moi, c'était pas possible. J'étais effrayée. On l'a ramené à la maison au bout d'un mois. On pensait qu'il avait eu un choc, mais que peut-être il allait récupérer, parce qu'il était comme un bébé normal, mis à part qu'il revomissait, voilà. Mais comme un bébé d'un mois ne tient pas la tête, on ne s'affolait pas plus que ça. Malgré le fait qu'au fond de moi, j'avais toujours cette question, combien de temps a-t-il manqué d'oxygène ? Combien de temps a-t-il manqué d'oxygène ? Et au bout de quelques mois, il n'y a pas de progrès, quoi. Alors on nous prescrit des neuroleptiques. Il fait des crises d'épilepsie, il ne tient pas la tête, il ne peut se tenir que dans son transat quand il est couché. Donc on nous dit que l'accouchement a été compliqué, mais on ne nous dit pas encore que Frédéric est mort. Enfin, c'est après qu'on va l'apprendre. Au bout de plusieurs mois, nous contactons donc ce premier hôpital parisien. Et c'est une dame qui fait des examens, puis qui nous dit « Écoutez, votre fils, il est sourd, il est aveugle, laissez-le. Pensez à en faire un autre. » Voilà. Elle nous a dit ça comme ça. Et on s'est révoltés, on s'est regardés avec mon mari, on a dit « Ah ben non, désolé, mais là, on est sortis, on est anti, on est non, non, on va pas vous le laisser. » Donc nous sommes repartis. Quel état, je ne peux pas vous le décrire, parce que même les mots, j'ai du mal à les trouver encore, parce que je me souviens que nous sommes arrivés à la maison avec mon mari. Il s'est assis, il a pris Frédéric dans ses bras, puis moi j'ai pris une lampe de poche pour voir si Frédéric suivait du regard, quoi. Pour nous, c'était tellement le choc, donc... Quand on s'est senti prêt, on est allé voir un deuxième hôpital. Mais là, c'était un professeur avec ses internes. Bon, il a fait tous les examens possibles, imaginables. Il m'a dit, madame, s'il a dans le cerveau comme un petit pois, il fera comme un petit pois, mais il ne dansera jamais le rock avec ses copines et laissez-le. Laissez-le là, de toute façon, il ne peut être qu'à l'hôpital, on s'en occupera, quoi. Il l'aurait gardé à l'hôpital, quoi, en fait. On apprend ça, quoi, que l'enfant naît en état de mort apparente, a manqué d'oxygénation, et il est tétraplégique, il a le cerveau en partie détruit. Oui, on nous dit qu'il est né mort. Il va falloir, à partir de 3 ans, le confier à un organisme spécialisé parce qu'on ne pourra pas s'en occuper. Donc, ça nous a vraiment choqués. Mais encore là, mon mari me dit, mais écoute, peut-être que finalement, il n'a pas manqué tant d'oxygène que ça, qu'il y a des choses récupérables, quoi. Mais je voulais quand même y croire jusqu'au bout. Il nous le donne tout de suite, hein, le compte-rendu, et on l'amène au médecin de famille. Il a un moment abattu, lui aussi. Moi, je lui dis encore, mais on va peut-être on va récupérer des choses. Et il me dit, mais non, ma petite, tout ce qui a été détruit dans un cerveau, ça ne se refait jamais. On ne refait jamais ce qui a été détruit dans un cerveau. Il grandissait normalement, si vous voulez. À 3 ans, il faisait 17 kilos, et il se mutilait les lèvres. C'était, sa seule force, elle était là, dans les crises d'épilepsie. Et alors, du coup, il nous a dit, non, vous ne pourrez pas, il va falloir, à un moment donné, que vous le remettiez entre d'autres mains. Donc, là, je me dis, oui, il n'y a plus d'espoir, quoi. J'avais vu à l'hôpital des enfants que l'on nourrissait par perfusion parce qu'ils ne pouvaient pas avaler. J'avais vu des enfants sangler avec juste des os, quoi. C'était juste l'os et la peau sur l'os avec la tête qui tombait. Ils attendaient la mort, quoi. Moi, je me suis dit, mais Frédéric, comme ça, pour nous, c'était l'abandonner parce que à chaque minute, je me serais demandé, est-il confortable? Est-ce qu'on le change souvent? Est-ce qu'on le gave? Est-ce qu'on lui met des perfusions? Pour nous, ce n'était pas possible de vivre en sachant qu'il était quelque part. Non, on ne pouvait pas. Et je me souviens que parfois, quand on amenait Frédéric chez mes parents, on faisait la route et je disais à mon mari, lâche le volant, qu'on parte tous les trois, quoi. au quotidien, je comprenais bien que j'arriverais pas longtemps à continuer comme ça. J'ai 24 ans, j'ai fini mes études d'égyptologie et normalement je dois travailler. Mais moi je m'en suis occupée exclusivement. Donc il ne vivait qu'avec moi en fait. C'était compliqué, mais bon, on s'était organisé. Pour ça, on s'était organisé, quoi. L'un travaillait et l'autre s'occupait de Frédéric. Mon mari avait créé un commerce de cycles sur mesure, des vélos sur mesure. J'avoue que bon, là, je m'en occupais pas trop parce que j'étais justement avec Frédéric. Parce que quand il faisait ses crises, c'était difficile. Pour moi, je devais vite aller mettre mon doigt entre ses dents serrées pour qu'il ne se fasse pas saigner. Parce qu'il peut aussi mourir en s'étouffant. Il n'a pas le réflexe de déglutir. Donc, il fallait que j'arrive à lui faire ouvrir la bouche pour, entre ses dents, mettre un peu de purée ou un peu de compote. Et que parfois, ça ne passait pas. Parfois, ça a occasionné une crise. Et on tombait à la renverse tous les deux avec la purée, quoi. Je savais que j'avais des limites pour m'en occuper. Donc oui, il a bien fallu se rendre à l'évidence. Il a bien fallu faire fonctionner notre lucidité à un moment donné, quoi. Mon mari est d'accord avec moi pour ne pas le placer dans un centre. Ça n'est pas possible. Je suis partagée entre la certitude que ça n'est pas une vie pour lui et l'impossibilité pour moi de me dire tu peux continuer sans lui. Et en même temps, je me dis, mais tu n'as pas le choix. Et je n'en conviendrai que à partir de la mort de mon père. Je lui ai promis, sur son lit de mort, que Frédéric ne vivrait pas comme ça. À partir de ce moment-là, je savais que c'était moi qui devais agir. D'abréger la vie de Frédéric, d'abréger la vie de mon fils. Quand je suis sortie de l'hôpital, je savais pas quand. Mais je savais que ce serait à moi et à moi seule, parce que c'est moi qui l'ai mis au monde. Pour moi, dans mon esprit, j'étais la seule habilitée à le faire. Et c'était lourd, bien sûr. Ça vous retranche du monde. Je savais que j'avais cette échéance. Il allait avoir 3 ans. Et à partir de ce moment-là, oui, moi, j'étais dans un autre monde, oui. Mais vraiment un autre monde. Il y avait une paroi étanche entre les autres et moi. Ça a duré plusieurs mois, environ 6 mois. Ça a été mon idée de tous les jours. Ça a été ma lutte. J'ai lutté contre moi. J'ai lutté contre mon désir de le garder. J'ai lutté contre moi-même. À force de projeter Frédéric dans un centre, oui, je suis arrivée à me dire oui, bon, tu vas abréger la vie de ton fils, tu vas lui donner la mort, oui. C'est inéluctable. Donc j'ai essayé de m'y préparer. Et un beau jour, j'avais pas choisi le jour. Mais un beau jour, j'ai senti en moi, c'est difficile à définir, j'ai senti à l'intérieur de moi que c'était le moment. Et c'est là que j'ai pu faire ce geste-là, de lui donner les neuroleptiques. J'ai pris une petite soucoupe, j'ai écrasé son tube de neuroleptiques. J'ai mis un peu de lait et je lui ai fait boire petit à petit la totalité de la soucoupe. Voilà. J'étais un peu comme un somnambule. J'avais presque de la distance à me voir comme si je me regardais. J'étais comme si je m'observais agir. C'est très bizarre, c'est quelque chose de très bizarre, oui. Il est décédé le jour de Toussaint, le jour de ses 3 ans. Je me dis, je suis persuadée, que dans certaines circonstances, il y a pire que mourir. Si j'avais laissé vivre Frédéric comme ça, dans sa coque, avec le cerveau en partie détruit, pour moi, c'était de la non-assistance à personne en danger. C'était comme si je le regardais, être comme un légume, sans avoir conscience de vivre. C'était le laisser dans cette non-vie. Il n'était pas vraiment vivant, il n'était pas vraiment mort. Il était quoi? Il était où? Dans où? Peut-être aurait-il vécu jusqu'à 4 ans, 4 ans et demi, peut-être 18, peut-être... Je ne sais pas. On ne m'a pas donné d'espérance de vie de mon fils. Donc on ne savait pas du tout combien de temps il allait rester comme ça. Peut-être n'ai-je pas été assez courageuse, moi, d'attendre ou de me dire je fais confiance à la science, je fais confiance à quelques progrès. Peut-être. Mais on a fait comme on a pu. Je peux dire j'ai tué mon fils, mais je ne le considère pas comme un monstre et je n'ai jamais douté de ce choix-là. Et je pense, j'espère que peut-être ma parole sera utile pour ne pas éteindre certains sujets, au-delà de l'émotion. Même si le fait que mon fils n'ait pas pu exprimer ses souhaits quant à partir. J'aimerais que l'euthanasie soit autorisée ou que des politiques courageux diront « il est temps de mettre le sujet sur la table, vraiment ». L'idée de ne plus vivre avec mon fils, de ne plus l'avoir, m'était insupportable. Parce qu'il ne faut pas croire, cette idée-là m'était insupportable. Mais à partir du moment où mon fils est mort, moi, une grande partie de moi je suis morte aussi. Hein. Il m'a fallu 15 ans pour reprendre un semblant de vie. Mais même encore là, mes enfants, quand ils me disent mais maman, tu ne veux jamais rien pour toi. Mais parce que pour moi, je ne veux plus rien. On peut être détruit à l'intérieur et toujours faire bonne figure, quoi. Parce que c'est pas anodin, c'est pas juste, c'est pas un geste. Je sais le poids, je sais le prix de la vie, ça ne remet jamais de ça. Mais en même temps, je suis sereine. Parce que pour moi, intimement, je me dis j'ai fait le bon choix. J'ai vraiment agi dans la zone, oui, seule, mais vraiment seule. Et il a vécu 3 ans, il est né, c'était mon fils. Et je l'ai aimé. Donc ça, quoi qu'on puisse dire, qu'on me fasse passer pour le pire monstre de la planète, je sais que j'ai aimé mon fils, je sais que j'ai agi par amour. Donc, moi, à l'intérieur, ça va, quoi. Le plus dur pour moi, ça a été de survivre. Et ça restera le plus dur, toujours, de toute façon.
C'était « Aux frontières de l'euthanasie », un reportage de Valérie Borst réalisé par Yaël Mandelbaum et Lise Combe. Merci à Anne, à Bernard, à Claudette Pierret, à Françoise Grisot et à Corinne Chauvel de la doc de Radio France et Jeanne Delecroix, l'attachée de production des Pieds sur Terre, et c'est Zoé Marie Roulier, notre stagiaire.